Radio Kapi.
À la présentation du journal grâce au Hamzati.
L'actualité à Kinshasa reste marquée par les dégâts d'une forte pluie qui s'est abattue la nuit de ce jeudi. Des morts, des routes coupées, des inondations et des éboulements de terre sont signalés ça et là, notamment dans les communes de Kisenso, Mongafula, Kalamu et Limete, à suivre dans quelques instants. Des centres de traitement du choléra inondés par les malades à Lubumbashi na Leokatanga. Cette maladie fait rage principalement dans les zones de santé de Kampemba, Katuba et Kisanga. Le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, appelle la population au respect des mesures d'hygiène en vue de combattre cette épidémie. L'invité de la rédaction ce soir est le professeur Norbert Ngoï de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'université de Kisangani. Il explique les causes de la baisse de la qualité de l'enseignement en RDC et propose des pistes, des solutions pour y remédier. D'abord, cette information en plus bref. Dans la province de Lomami, des tirs nourris ont été entendus ce vendredi soir dans la ville de Cabinda. D'après des sources concordantes, un conflit oppose les membres du bureau de l'Assemblée provinciale à la suite de la motion de censure initiée contre le vice-président de cet organe délibérant. La même source indique que dans leur altercation, le rapporteur a été blessé au visage et quelques documents déchirés par le vice-président. La tension est encore vive. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal part de Kinshasa, où il a plu abondamment la nuit dernière. Des cas de décès sont signalés notamment au quartier Kanluka, dans la commune de Ngaliema, et aussi un mort à Mongafula. Des éboulements de terre, des inondations et la progression des érosions sont aussi enregistrés dans certaines communes comme Kisenso, Mongafula, Kalamu et Limete. C'est ce que nous disent Babel Mpongo et Fatih Tienda dans ces comptes rendus.
Au moins 5 personnes ont perdu la vie au quartier Congo, au camp Luka, principalement des enfants. D'après des habitants, certaines familles seraient encore à la recherche de disparus. Dans de Dieu, un habitant témoigne.
Les caniveaux qui viennent de Météo étaient bouchés. Une débordement d'eau qui a endommagé les maisons d'en bas ici, vers la rue Mbama. Il y a eu 5 morts.
Les dégâts matériels sont aussi importants ailleurs. On compte des maisons détruites par des éboulements de terre, en Galima toujours, mais aussi à Kisenso et Mongafula. Ici, une fillette de 9 mois en est morte. Des routes ont également subi des dégâts, cas de bypass entre Triangle des Arrêts Courants ainsi qu'à son croisement avec Elingessa et aussi l'avenue de tourisme en Ngaliema. Le bourgmestre de Kisenso explique la situation chez lui.
Kisenso est une commune érosive. Il y a eu beaucoup d'éboulements, quelques maisons se sont écroulées. Les têtes d'érosion ne font que s'alourdir. La construction de la route ne fait qu'en partie. Les Chinois avancent, c'est la pluie, ils reculent. Les dégâts matériels, il y en a presque dans cette quartier.
Plusieurs avenues ont été inondées au centre-ville comme à la cité. C'est le cas au quartier Ndano à Limete, Kaukayolo et Matongé à Kalamu, à Kitambo également. Ici, la toiture d'une salle de fête a été emportée, faisant 2 blessés. Notez aussi que le réseau Vodacom est inaccessible en Ngaliema et Mongafula. Dans son communiqué, l'entreprise liste là une coupure de câble à fibre optique.
Merci Babel. Concernant toujours les dégâts de cette pluie qui s'est abattue sur la capitale, sachez que sur la route bypass, un peu après le croisement avec l'avenue Elengessa en allant vers les ronds-points Ngaba, une grave érosion de plus de 10 mètres de profondeur s'est formée et a emporté une partie de la route. Plusieurs habitations se sont écroulées. Des câbles de la SNL et la tuyauterie de la régie des eaux sont endommagés à cet endroit. Conséquence, la route est rétrécie en une seule bande, occasionnant ainsi des embouteillages monstres depuis la nuit de jeudi jusqu'à ce vendredi. N'est-ce pas, Michel Kifindangoy?
La file d'attente est longue. Les camions poids lourds en provenance de Matadi occupent toute la route depuis cette nuit, alors que les autres véhicules, par manque de passage, cherchent désespérément de voies de déviation dans la commune de Selembao pour ressortir vers Elengessa. Malheureusement, même ces voies de secours sont coupées par la puissance des eaux de pluie. Cette confusion observée depuis le début de cette journée est provoquée par une érosion qui a coupé la route bypass un peu après son croisement avec l'avenue Elengessa. Sur les deux bandes allées, une se trouve complètement dans le ravin de plus de 10 mètres à cet endroit. Le sol étant sablonneux, même la deuxième bande est sous menace, obligeant les véhicules à se croiser sur les deux bandes retour encore praticables. Cette érosion a aussi occasionné l'écroulement des habitations ainsi que les infrastructures de la SNEL et de la régie des eaux à cet endroit. Si elle n'est pas maîtrisée avant la prochaine pluie, il y a lieu de craindre que cette route se coupe en deux et qu'une dizaine de maisons soient englouties dans l'érosion.
Un reportage signé Michel Kifindango sur Radio Okapi. Pendant ce temps, dans la ville de Beni au nord Kivu, les menaces d'inondation pèsent constamment sur les habitants proches des rivières qui serpentent la ville. Même avec des faibles pluies, ces rivières quittent leur lit et menacent les habitations. La population appelle les autorités à prendre des mesures appropriées pour prévenir des catastrophes aux conséquences parfois graves. Marc et Marofimbo, depuis Beni.
Dans les quartiers Kasabignol et Mabakanga, par exemple, une faible pluie suffit à faire déborder la rivière Mnyambelu qui emporte tout sur son passage. Certaines constructions sont situées à moins de 25 mètres du lit de cette rivière qui ailleurs est utilisée comme dépotoir pour les déchets ménagers. Cela pousse la rivière à forcer son passage, entraînant des inondations dans ces quartiers. Nicolas Mbavoua, habitant du quartier Kasabignol, appelle les autorités à veiller sur la sécurité des habitants de cet endroit.
Nous sommes en train de faire appel aux autorités de en ville de Beni, vu l'inondation récurrente dans la ville de Beni. À cette période de pluie, les habitants riverains et les constructions riveraines sont menacés après même des moindres pluies. Après des moindres pluies, l'eau quitte son lit et ramasse tout à son passage, au risque de la vie des vulnérables, comme des enfants et des personnes âgées.
Cette situation est également observée dans les quartiers de l'ouest de la ville où les lits des rivières sont rétrécis à cause des constructions anarchiques. Pour sa part, les coordonnateurs de la protection civile dans la région de Beni appellent la population à prendre conscience de cette situation pour éviter les catastrophes naturelles. Jean-Paul Capitula invite la population à éviter les constructions anarchiques au bord des rivières et à respecter la limite des lits des rivières fixée à 25 mètres. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Comme dit dans les titres, à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, on signale la résurgence du choléra dans quelques zones de santé. Certains centres de traitement de choléra sont bondés des malades. La prise en charge est gratuite avec les intrants fournis par le gouvernement provincial et ses partenaires. Une occasion pour le ministre provincial de la Santé d'inviter la population à l'hygiène, car cette épidémie n'est pas encore vaincue et continue de faire des ravages. Jean Gandou.
Les zones de santé les plus touchées ces dernières semaines sont notamment Kampemba, Katuba et Kisanga. Voilà qui justifie la visite y effectuée ce mardi par le ministre provincial de la Santé. Joseph Sambibulanda en fait le point.
Il faudra noter que nous évoluons presque en dents d'ici depuis presque 9 semaines. Mais la semaine de Pâques, avec dernière pluie pratiquement, nous connaissons une recrudescence dans les zones de santé de Katuba, Kampemba et puis Kisanga. Nous venons de Kisanga, le CTC est à 100% d'occupation. Ici, nous sommes à plus de 100%, donc 122% d'occupation. Cela témoigne que le choléra sévit encore dans nos zones.
Au regard de la gravité de la situation, il lance l'appel à toute la population de Lubumbashi.
C'est l'occasion ici de rappeler à toute la population de la ville de Lubumbashi et ses environs que le choléra est toujours là et que les gens doivent respecter les mesures d'hygiène. Le traitement est gratuit et nous avons donc vérifié cela auprès des malades.
D'après les sources médicales, à la 17e semaine, la ville a notifié 565 cas, dont 10 décès.
Dans un autre chapitre, une quarantaine d'intellectuels congolais fustigent le manque de transparence dans la déclaration de l'accord de principe signé entre le Rwanda et la RDC à Washington. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, les signataires mettent en garde contre tout accord pouvant compromettre les ressources naturelles du pays. Ils rappellent que dans un passé récent, la RDC s'est retrouvée dans une situation où ses ressources ont largement contribué à l'essor des pays étrangers plutôt qu'à celui de sa propre population. Ces intellectuels appellent le président de la République à ne pas sacrifier les minerais du pays, mais plutôt à inclure la justice transitionnelle dans les efforts déployés pour la restauration et la consolidation de la paix dans l'est du pays. Docteur Guilain Maté, consultant international chez Nexus Paix, Sécurité et Développement Suisse, est l'un des signataires, s'exprime à ce sujet au micro de Ronelyne Tibonera.
On négocie dans une position très peu confortable, mais cela ne veut pas dire qu'on doit aller jusqu'à brader les ressources du pays, qui sont des ressources qui appartiennent à la population congolaise actuelle et aux générations à venir. Il est de notre droit, en tant que personne avisée et expert de la question de la conflictualité dans la région, en nous basant sur justement les leçons tirées des négociations passées, il est de notre devoir d'alerter, d'interpeller ceux qui vont parler en notre nom autour de cette table de négociation sur le risque, encore une fois, de tomber dans les erreurs du passé. Vous vous souviendrez que par le passé, on a été obligé de faire des concessions totalement démesurées est inacceptable, hein, en donnant justement la grosse part du gâteau aux pays voisins au détriment des intérêts de la nation.
On enchaîne avec l'éducation. Les élèves finalistes du secondaire et du primaire du Nord et du Sud Kivu vont passer leurs épreuves de fin des cycles édition 2025 en toute quiétude. Même ceux qui vont passer le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASO SP. Le gouvernement congolais rassure de la prise en charge totale de tous les frais liés à l'organisation matérielle des passations de ces épreuves. C'est la réponse au plaidoyer de la députée nationale du Nord Kivu, Adèle Bizizane Maeshe, auprès de la chef du gouvernement. Elle a été reçue en audience par la première ministre en début de cette semaine pour plaider cette cause. On écoute Adèle Bazizane qui appelle ainsi les finalistes à se préparer en conséquence.
Les parents des deux provinces traversent des situations de précarité et qui n'ont pas de moyens pour supporter les frais de participation aux examens d'État ainsi qu'au TENASOST de l'édition 2025 pour les enfants finalistes pendant cette période d'occupation. Contacté, la chef du gouvernement m'a réussi en date du 28 avril pour discuter de la question. J'étais sortie de l'audience avec une bonne nouvelle parce qu'elle m'a fait voir que le gouvernement a décidé de prendre en charge tous les frais liés à l'organisation matérielle des épreuves certificatives dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Voilà l'occasion pour moi d'appeler tous les enfants finalistes de nos deux provinces de se préparer minutieusement pour ces épreuves qui pointent à l'horizon. Aux parents, je leur demande de bien encadrer les enfants, de les accompagner psychologiquement, moralement, pour que d'ici juillet, qu'ils affrontent bien les examens et que le Nord Kivu puisse avoir un bon score ainsi que le Sud Kivu.
Par ailleurs, dans la province de la Tchopo, certains fournisseurs des vivres à la prison centrale de Kisangani réclament l'air du dernier trimestre de l'an 2024. Ils déclarent avoir fourni des vivres composés notamment d'huile, des riz, des haricots et des sels. Cependant, ils n'ont jamais reçu leur enveloppe estimée à plus de 51 millions de francs congolais. Aussi, le contrat qui les lie avec la prison centrale a été résilié en violation des dispositions réglementaires. C'est ce que dénoncent Michel Salé Mahamindi et Flora Kambali dans une correspondance adressée aux autorités pénitentiaires, administratives et politiques. Michel Salé Mahamindi au micro de Jacques Mkonkole.
Nous avons émis nos factures au niveau des directeurs des prisons centrales de Kisangani. Jusqu'à présent, il ne nous répond pas. Nous avions même écrit une correspondance adressée à l'autorité provinciale et au chef des divisions de justice et garde des sceaux pourvu qu'il puisse intervenir, puisque nous avons un avenant où nous avons un contrat contresigné par les chefs des divisions de la justice provinciale ainsi que les directeurs des prisons centrales. Mais curieusement, à la fin du quatrième trimestre de l'année 2024, nous avions déjà déposé une grande quantité de vivres au niveau des prisons centrales. Ils ont dit qu'il faut aller retirer, puisque que le gouvernement central ou Kinshasa avait déjà envoyé autres fournisseurs. Vous voyez comment nous étions d'abord perdants de ce que nous on avait déjà déposé à la prison centrale et maintenant nous avons retiré et nous demandons pour le moment qu'on puisse rétablir notre droit. C'est le seul moyen qui nous permet de vivre. Nous sommes vraiment très très bloqués puisque nous aussi, il y a d'autres histoires que nous prenons en crédit par rapport à nos fournisseurs et ils nous demandent, nous ne savons pas comment répondre. Même les moyens de vivre, ça nous crée des problèmes.
En réaction, le directeur intérimaire de la prison centrale de Kisangani reconnaît le retard dû au paiement des factures de ses partenaires. Cela n'est pas un cas unique pour la Tchopo, mais une situation générale dans l'ensemble du pays. Quant à la résiliation du contrat, Junior Okonji précise qu'ils avaient été pris à titre temporaire après le désistement de l'ancien fournisseur. Et cela en attendant que la direction générale du ministère des tutelles trouve d'autres fournisseurs. Dans l'actualité, sachez aussi que des accidents de circulation routière sont devenus monnaie courante sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon entre Kinshasa et Kikwit, surtout dans les territoires du Massimanimba, province d'Ikwilu. Le dernier cas en date est celui survenu lundi 28 avril entre les villages Kinimi et Kambanza, occasionnant au moins 14 morts et 3 rescapés. Préoccupé, l'administrateur de ces territoires plaide auprès du gouvernement congolais pour l'élargissement de la route nationale numéro 1 afin d'éviter de nouveaux drames provoqués notamment à cause de l'étroitesse de la chaussée. Radio Kapi à Bandundu, Irène Bomaluzolo.
Cet accident de circulation s'est produit dans la nuit de lundi à mardi sur la RN1 entre les villages Kinimi et Kambanza dans le secteur de Mosango en territoire de Masimanimba. D'après l'administrateur adjoint de cette entité, Madame Nova Mawa, un bus en provenance de Kikwit a tenté d'éviter une collision avec une remorque, terminant ainsi sa course sur des piétons et tuant au total 14 personnes, dont 13 décédées sur les champs et une autre qui a succombé à l'hôpital. Et pour sa part, Emery Kanguma, administrateur du territoire de Massimanimba, pense que l'étroitesse de cet axe routier est l'une des principales causes de ces accidents qui surviennent à répétition. Il plaide donc pour l'élargissement de cette route d'intérêt économique capital.
La route est étroite. Si la route était fabriquée par rapport aux petits véhicules, pour le moment nous observons des remorques, des bus, il y a des fois des bus qui se suivent, l'autre a eu la panne. C'est là où nous demandons aux autorités d'élargir cette route pour que ces accidents pareils ne se trouvent plus.
En outre, Emery Kanguma invite les conducteurs à éviter l'excès de vitesse qui, selon lui, reste également l'une des raisons des accidents. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les autorités du Togo mettent en garde contre les fausses promesses des bourses pour aller étudier en Russie. Le ministère des Affaires étrangères a été saisi de plusieurs cas de ressortissants togolais partis dans ces cadres et qui se sont retrouvés en Ukraine pour se battre aux côtés des forces russes. La société civile avait déjà alerté récemment sur un cas similaire.
L'invité.
La dégradation de la qualité de l'enseignement est une réalité indéniable et reconnue par tous les partenaires éducatifs en RDC. Cette situation est consécutive à plusieurs facteurs. Cependant, l'État est reconnu comme le plus grand responsable de la baisse de la qualité de l'enseignement au pays. C'est ce que pensent les scientifiques. Mais comment explique-t-il cette situation et comment y remédier? Le professeur Norbert Ngoï Mwepu, enseignant à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'université de Kisangani, nous donne quelques pistes dans cet entretien avec Jacques Mkonkole.
Professeur Norbert Ngoï Mwehu, bonjour.
Bonjour Jacques.
Professeur, quel est l'état des lieux que vous pouvez établir de l'enseignement en République démocratique du Congo?
Merci. Quand on évoque cette question de l'état des lieux, je vois le produit, je vois l'apprenant, je vois l'élève, je vois l'étudiant qui sort de l'université, son état. D'une manière générale, ce que l'on constate, c'est que le système ne fonctionne pas correctement puisque ces produits ne sont pas capables de transformer la société. Ce constat a été fait par Feu Macha Komamba, d'heureuse mémoire. Il s'est inquiété d'une université qui était incapable de transformer la société alors qu'il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de professeurs, beaucoup de licenciés, beaucoup de docteurs, mais la société ne change.
Comment pouvez-vous expliquer cette situation?
Cette situation, à mon avis, moi je la vois sur le plan qualitatif. Je vois déjà la qualité des enseignements. Les apprentissages sont dégradés. C'est dû au fait que au départ, même ceux qui enseignent ne semblent pas maîtriser les pratiques sociales de référence auxquelles il devrait recourir en principe pour s'assurer des problèmes de société et se décider de ce qu'il faut changer ou non.
Et qu'est-ce qu'ils devraient faire, ces enseignants?
Ah bon, bien comprendre d'abord leur société, puisque c'est celle-là qui a besoin d'eux. Les enfants apprennent pour se rendre utile à leur société et quand ils n'apprennent pas quelque chose qui leur permet de se rendre utile à la société, alors là, ça ne sert à rien. Je le dis à mes étudiants, si vous ne pouvez pas savoir connaître le problème pour lequel vous êtes là et la direction du changement qu'il faut introduire dans le système, il vaut mieux ne pas enseigner.
Professeur, comment expliquer qu'autrefois, à une autre époque, les élèves, les étudiants étaient bien formés, mais aujourd'hui, on parle de la dégradation de la qualité de l'enseignement?
Oui, mais on dit que le poisson pourrit par la tête. Le système d'enseignement se dégrade à partir de la tête, puisque le système est politisé. À l'époque, le système d'enseignement était entre les mains des professionnels de l'enseignement. Ils avaient le monopole de l'organisation. Ayant reçu mandat du gouvernement, ils assumaient leur charge. Actuellement, un système où les décisions sont prises au sommet pour des raisons de foi qui ne concernent pas l'apprenant, alors qu'est-ce que vous pouvez attendre? Maintenant, l'inspecteur était devenu un mendiant. Or, le système était entre les mains des inspecteurs. Pour organiser une école, il faut qu'un inspecteur puisse s'assurer que vous avez les moyens pédagogiques, que vous vous avez les moyens matériels, vous rassemblez toutes les conditions pour prendre l'enfant dans sa famille et le conduire dans une large société où il peut apporter sa contribution.
Professeur, quels sont les grands maux qui rongent l'enseignement aujourd'hui en RDC?
D'abord, à mon avis, au niveau qualitatif, le recrutement des enseignants, l'évaluation de l'enseignement. Actuellement, vous savez que comment fonctionne même le système d'examen d'État. Dès le départ, les intrants, le budget qui est alloué au système éducatif, les moyens qui sont mis à la disposition des écoles sont très limités. On dépend des parents, on dépend de n'importe qui. C'est ainsi que les écoles privées pullulent partout. Et vous voyez dans quelles conditions elles sont organisées.
On peut dire, professeur, que l'État est lui-même grand responsable de cette situation qui est tant décriée aujourd'hui.
Bon, en tout cas, là, il ne faut pas aussi mâcher les mots. L'État doit s'assurer du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire en amont, les décisions prises comme la loi cadre. La loi cadre est un bon document, il faut le lire. Mais est-ce qu'on assure le suivi? Est-ce qu'on s'assure que dans les écoles, on applique ce qui est dans la loi cadre? Est-ce qu'on accompagne les personnes qui font fonctionner le système, les enseignants, les inspecteurs, les élèves eux-mêmes, la structure même, l'organisation scolaire, les écoles telles qu'il y a surpeuplement et tout ça? Est-ce qu'on est sûr de ce que l'on est en train de faire?
Les conditions socio-économiques dans lesquelles évoluent les enseignants, c'est aussi un problème, professeur.
Au dernier colloque de Kinshasa sur l'éducation en contexte de crise, j'ai publié un article intitulé « La condition enseignante au cœur du débat pour une éducation de qualité. On ne peut pas faire la qualité sans enseignants. Si les conditions de travail, l'environnement de formation et d'apprentissage, si ces conditions sont réunies, l'enseignant a la joie d'aller à son école.
Professeur Ngoyi Norbert.
Merci.
Notre invité répond aux questions de Jacques Mukonkole. C'est la fin de ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta et supervisé par Alain Rongmouchinge. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa a assuré la mise en onde. Vous pouvez les réécouter sur www.radiokapi.net. Merci pour votre attention et très bonne suite de l'antenne soir avec Jeff Opela.